Donc la lecture de Jacques. Jacques 3. Mes frères, qu'il n'y ait parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en haleine. Mort dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce.
Merci Jean-Louis. Alors, ce message a été en très grande partie préparé par Pascal, c'était dans le dossier donc préparé pour ce dimanche spécial pour la paix. Je l'ai quelque peu transformé, enfin adapté plutôt, mais la plupart des choses dites, qui vont être dites, sont de Pascal. Les moyens modernes de communication permettent une extraordinaire diffusion de ce que chacun pense et croit via les réseaux sociaux. La parole se libère, pour le meilleur ou pour le pire. Le meilleur est que chacun a directement accès à énormément d'informations et de possibilités de communiquer. Le pire est que l'information disponible n'est pas forcément vraie, quand elle n'est pas sciemment mensongère. Le pire est que l'expression de la communication libère une agressivité et une méchanceté qui pourraient bien s'étendre à toutes nos relations sociales. Et enfin, le pire est que l'usage d'Internet et des réseaux sociaux a tendance à prendre une partie de plus en plus importante de notre temps. Enseigner l'Église donnait un certain statut à celui qui le faisait. Peut-être pour cela, il semble qu'il y avait de nombreux candidats à cette fonction. Jacques réagit en cherchant à décourager ceux qui souhaitent enseigner, et il le fait en rappelant que les enseignants seront jugés plus sévèrement. Au verset 2, sans donner plus de détails au sujet des candidats à l'enseignement, Jacques élargit son propos de deux manières. Il s'adresse maintenant à tous et non plus seulement aux enseignants. Il écrit sur l'usage de la langue en général et non plus sur l'enseignement seulement. Jacques affirme la faillibilité de tous les humains. On peut comprendre, nous bronchons, ou nous commettons des fautes à plusieurs reprises, ou nous bronchons, ou commettons des fautes dans plusieurs domaines, les deux sont vrais, et l'ambiguïté est peut-être voulue par Jacques lui-même. Mais il y a un domaine où nous sommes particulièrement fragiles. C'est celui de l'usage de la parole. Seul celui qui a fait un cheminement spirituel approfondi, qui l'a amené à devenir un chrétien accompli, expérimenté, mûr, devient capable d'une grande maîtrise de soi dans sa vie. Cette grande maturité spirituelle se prouve en particulier par le fait qu'il est aussi capable de contrôler sa langue. Il maîtrise l'acte de parler. Il maîtrise sa parole. Il maîtrise le contenu de ce qu'il dit. Oups ! Là, personnellement, je me prends une bonne claque. Vous connaissez toutes mes réparties parfois limites et aussi la promptitude à dégainer une parole plus vite que mon ombre. Au verset 3 et 5, l'importance que Jacques donne à la langue n'est-elle pas exagérée ? La force n'est-elle pas dans le corps ? N'est-ce pas le corps que nous blessons, voire tuons, que nous construisons, que nous travaillons ? N'est-ce pas par le corps que nous faisons tout ça ? Qu'est-ce que la langue, membre sans force, en comparaison à un bras musclé ? Jacques prend trois versets et trois images. Le mort des chevaux, le gouvernail d'un navire, le petit feu et la grande forêt. Trois images construites sur l'opposition entre la petitesse et la puissance, pour souligner que la petitesse physique de la langue est sans rapport avec tout ce qu'elle peut faire. Au verset 6, ce que Jacques souligne plus fortement dans ce verset clé, c'est la capacité de mal de la langue. Il ne donne pas de détails là-dessus. Voici une liste non exhaustive du mal que l'on peut faire par nos paroles. On peut agresser, injurier, créer des conflits, mentir, commérer, se moquer, médire, dire du mal de quelqu'un, juger, condamner, accuser, diffamer, salir, tromper, manipuler, parler en refusant d'écouter les autres, être opportuniste, adapter sa communication en dehors de toute intégrité. Et on pourrait continuer la liste. Avec la parole, on peut se faire aussi du mal à soi-même, en parlant de façon irréfléchie, en s'engageant de façon irréfléchie, en exprimant sa vanité, sa superficialité, sa cupidité, sa bêtise, en créant du conflit entre soi et les autres. Il est quelque part incroyablement facile de faire tout cela par nos paroles. Il suffit de parler, ou alors de transcrire ce que l'on dit par un SMS ou un mail. Et c'est ainsi que Jacques peut écrire que la langue est le monde de l'iniquité, qu'elle peut souiller tout le corps. Ici, le corps est sans doute le corps de la personne, dans le sens de sa vie entière, comme dans Romains 12, 1, offrir son corps en sacrifice. La langue enflamme le cours de la vie. Une parole maladroite ou volontairement offensante peut amener un conflit qui va peser sur tout le cours de la vie. Un engagement trop vite prononcé, et on se trouve prisonnier d'un choix que l'on va regretter peut-être longtemps. Une manière de parler décente ou égocentrée va orienter nos relations, notre manière d'être avec les autres et donc notre vie dans son ensemble. On peut être victime du bashing, kesako, c'est être frappé physiquement ou psychologiquement violemment, ou de harcèlement sur des réseaux sociaux et se retrouver à devoir quitter son école, son lycée, son travail. La langue est elle-même enflammée par la géhenne. La géhenne symbolise le lieu de la perdition éternelle, un lieu de feu, comme on peut le lire en Matthieu 5, 22 ou 18, verset 9. Est-il question de l'enfer comme origine du pouvoir destructeur? Est-ce une référence à Satan, le premier menteur dans le jardin d'Éden, Genèse 3, 1, 5? De Satan, l'accusateur des croyants, Job 1, verset 9 à 11, et plus loin, Zacharie 3, 1 à 5, Apocalypse 12, 9 à 10. Je vous laisse trouver la réponse. Les versets 7 à 9, ces versets reprennent le thème de la maîtrise de la langue, introduit au verset 2. De façon très pessimiste. Comment comprendre l'apparente contradiction entre le verset 2 qui semble envisager que l'on puisse ne point broncher en parole, bien que cela ne soit pas possible que pour les personnes de grande maturité, et l'impossibilité pour tous de dompter la langue? Sans doute par le fait que seul un cheminement spirituel marqué par le travail de l'Esprit et la grâce de Dieu peut nous permettre de progresser dans la maîtrise de la langue. Sans cette aide, cela est tout à fait impossible. La langue est pleine d'un venin mortel. Ce qualificatif de la langue reflète l'enseignement de l'Ancien Testament au psaume 140, verset 3. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspi. Le venin produit par la langue détruit le prochain, Proverbe 11, 9. Et la langue conduit à la ruine, celui qui pêche, Proverbe 18. Dans la littérature juive, la comparaison avec le serpent était largement répandue. Peut-être parce que la langue ressemble un peu à un serpent. Parce qu'un serpent tue avec sa bouche. Parce que dans le jardin d'Éden, c'est avec des paroles que Satan a séduit l'homme et la femme et provoqué leur mort spirituelle. Rien ne prouve que Jacques s'appuie sur quelques passages particuliers. Il affirme simplement que si elles ne sont pas contrôlées, les paroles, loin d'être inoffensives, sont aussi dangereuses, aussi mortelles que du poison. Au verset 9 et 10, l'usage de la langue met en évidence l'inconstance de l'être humain, mais aussi sa capacité au double jeu. Son incapacité à la cohérence, y compris dans sa vie spirituelle. Jacques, par le vocabulaire qu'il utilise au verset 9 et 10, interpelle directement les chrétiens, à commencer par lui-même. Il utilise le « nous ». Bénir Dieu, c'est facile. On le fait dans nos prières et dans nos chants. Mais notre bouche sert aussi à maudire les humains, ce qui est tout à fait incohérent. Il faut probablement prendre le verbe « maudire » dans un sens large qui inclut toutes les façons négatives dont nous utilisons notre bouche contre les hommes. Jacques ne parle pas seulement du mal dans l'Église, mais par rapport à tous les humains, comme le montre la référence aux humains faite à l'image de Dieu. Comment peut-on bénir Dieu et maudire ce que Dieu a créé à son image? Cette référence nous rappelle que toutes nos relations devraient être influencées radicalement par le fait que tous ceux qui nous entourent, avec qui nous sommes en contact, sont à l'image de Dieu. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, verset 10. Ce que nous trouvons au verset 10, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. C'est un appel extrêmement clair et ferme à la repentance et au changement. Nous ne devons surtout pas continuer ainsi. Et Jacques appuie cette exhortation par les trois dernières images qu'il introduit par autant de questions rhétoriques. Nous savons bien que la réponse à ces questions est non. En conclusion, communiquer, c'est simple. D'ailleurs, on ne peut pas ne pas communiquer, verbalement ou autrement. Mais la communication dit qui nous sommes, et particulièrement nos paroles. Et ces paroles sont marquées par la méchanceté, mais aussi par la faiblesse et l'inconstance qui consiste à changer trop facilement d'opinion, de décision, de sentiment ou de comportement. Mais aussi, il est possible d'être inconsistant, c'est-à-dire de manquer de consistance morale, de fermeté. En tant que disciples, nous sommes invités à maîtriser nos paroles pour qu'elles soient positives et bénissantes, ce qui signifie entre autres être responsable de ma communication et de ses effets sur ceux avec qui je communique. Quel que soit le moyen de communication employé, ce point est important, car on a spontanément tendance à ne pas donner le même poids éthique à nos mots qu'à nos gestes. Apprendre à ne pas parler trop vite sans réfléchir. Clarifier les motivations de ces prises de parole. Vous connaissez tous l'expression « tourner sept fois sa langue dans sa bouche ». Renoncer à des prises de parole qui pourraient être gratifiantes pour soi, mais au détriment d'autres personnes, présentes ou non. Moquerie, accusation, et même information dont je n'ai pas vérifié qu'elle soit vraie. Cela signifie aussi de renoncer à toute tromperie ou manipulation, même si ce chemin peut paraître plus facile que la vérité. Le plus important, sans doute, ceux à qui je parle, ceux dont je parle, sont des humains à l'image de Dieu. Il nous est nécessaire d'intégrer cette réalité au cœur de notre communication. Si c'est le cas, elle va orienter de façon décisive notre façon d'être en relation et donc de communiquer. Alors peut-être me direz-vous, y a-t-il un rapport avec les nouvelles technologies ? Ces différents aspects sont aussi vrais pour la communication par les moyens modernes. Ils sont peut-être encore plus à souligner, car le fait de ne pas se voir face à face demande encore plus de maîtrise de la communication. En effet, le face à face régule l'échange. Spontanément, sans m'en rendre compte, je prends en compte que l'autre est là avec son corps et surtout son visage. Le téléphone permet un double jeu, beaucoup plus facile. Par exemple, je peux parler gentiment et montrer par mes gestes qu'en fait je suis énervé. Je peux me lâcher d'autant plus que je ne suis pas vu, même si une personne attentive remarquera peut-être dans la communication verbale que quelque chose ne va pas. Si je communique sans relation, sans la voix, la contradiction entre ce que je communique par écrit et ce que je pense vraiment peut être encore plus grande. Et le fait de penser à mon interlocuteur comme une personne créée à l'image de Dieu et moins spontanée, pour ne pas dire plus difficile. Si je vais sur des forums de façon anonyme, la tentation de se lâcher est encore plus forte. Je prends un pseudo, personne ne sait qui je suis et je peux communiquer de façon tout à fait irresponsable. L'absence de face-à-face renforce la tentation de n'écouter que ce qui me plaît, au détriment de la recherche du vrai. Ce qui est encore renforcé par le niveau émotionnel soulevant élevé des communications sur le web. On s'adresse aux émotions plus qu'au cerveau. Jésus est un exemple parfait d'une communication maîtrisée, respectueuse de ses auditeurs, y compris dans les polémiques avec ses opposants, sans sacrifier à la vérité, en renonçant aux arguments qui auraient obligé ses interlocuteurs à croire en lui. Il a renoncé à la gloire pour devenir homme parmi les hommes, sans chercher à s'imposer, ni à imposer son point de vue. Pour nous, à la Vosges, dans notre communication entre nous, ce n'est pas évident. La distance entre chaque famille rend la communication face à face difficile. J'ai quelque chose à dire à Jean-Louis, je me fais 160 km aller-retour. Difficile. Comment ne pas utiliser le téléphone pour des conversations orales? Comment ne pas utiliser le SMS lorsque nous sommes dans la pampa? Comment ne pas utiliser la messagerie Internet? Ces outils sont devenus incontournables. Ce n'est pas facile lorsque nous habitons à Damblin, dans la pampa vosgienne, de ne pas les utiliser. Mais alors, il nous faut savoir aller à l'essentiel. Personnellement, je reconnais que j'ai un gros travail à faire pour trouver le juste milieu dans mes échanges. Pascal nous dit de voir notre interlocuteur comme une personne créée à l'image de Dieu, tout comme nous. Appuyons-nous sur Christ, qui, comme le dit encore Pascal, est un exemple parfait de communication. Pour cela, il faut bien le connaître, et donc lire, étudier notre Bible régulièrement. Amen.